Jean chapitre 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Alors ces premiers trois versets, en fait, sont en lien avec ce que nous avons vu dans le chapitre précédent, là, verset 22, où nous avons lu « Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là, il séjournait avec eux et baptisait, Jean aussi baptisé à Aïnon. » Il descend la montagne, parce que Jérusalem, c'est dans des montagnes. Il descend dans le désert judéen, et là, à côté du Jourdain, apparemment, et il baptise des disciples jusqu'à ce que, donc, verset 1 de chapitre 4, que les pharisiens entendent parler de ça, ils ne supportent pas, rappelons-nous, pourquoi ils ne supportent pas que Jésus attire des foules? Parce qu'il a mis fin à leur petit business de vendre des brebis et des bœufs dans le temple, au détriment des adorateurs non-juifs. Donc, comme c'est marqué dans Ésaïe, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Enfin, un tel commerce dans le temple empêche les gens pour adorer Dieu. Et c'est pour ça, justement, que Jésus a dû le nettoyer. Mais, donc, finalement, ces pharisiens, ils ne sont même pas contents qu'ils soient éloignés de Jérusalem. Il faut tout simplement qu'ils s'en aillent de tout leur territoire, donc la Judée, parce que la Judée, à l'époque, était considérée comme la terre religieuse. Donc, s'il y a des gens, des petites messies qui font leurs petits trucs en Samarie, en Galilée, qu'importe qu'ils fassent, et ça ne leur touche pas, mais en Judée, c'est plutôt ce qui est de sacré, et là, non, ce n'est pas permis. Et donc, ils le chassent, ils ne veulent pas de lui. Alors, le Seigneur, donc, sachant tout ceci, et ne voulant pas provoquer une situation dangereuse dans laquelle il sera amené ou peut-être tué ou exécuté avant son temps. Rappelons-nous que tout ce que le Seigneur a fait était parfaitement selon la volonté de Dieu. Dieu avait prévu qu'il y aura seulement 3 ans de ministère là. Et donc, dans ces années de ministère, il fallait qu'il fasse chaque chose en son temps. Et donc, on peut avoir une idée que flottait un petit peu comme un papillon, là où il y avait l'esprit qui le dirigeait. Mais non, en fait, tout était vraiment prévu par l'esprit. Tout geste, toute marche était soigneusement préparé d'avance par le Père, bien sûr. Et il ne fallait en aucun cas que Jésus périsse à ce moment-là. Il y avait plein d'autres choses à faire, d'autres gens à attirer vers le royaume de Dieu. Donc, il repart pour la Galilée. Donc, si vous avez une carte dans votre Bible, c'est bien de regarder parce que Jérusalem se trouve dans le sud et vers l'est se trouve la rivière Jourdain. Et donc, c'est très probable qu'il montait ça pour aller jusqu'à Galilée. Verset 4. Il fallait qu'il traverse la Samarie. Un verset pour dire il fallait qu'il traverse la Samarie. Et pourquoi on mit « or » devant ce verset? Comme si c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Or, il fallait monter la Samarie. Ouais, parce que, effectivement, c'était une chose qui ne se faisait pas, surtout par un rabbin, quelqu'un qui voulait être estimé par les chefs religieux. La Samarie était l'endroit où il ne fallait jamais y être. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait en Samarie? Encore, si vous regardez votre carte, vous allez remarquer que ça faisait quand même partie de le territoire. Mais le territoire romain, dans l'esprit des Israélites, oh, ça faisait 2 pays tout à fait différents. Et s'il y avait quelqu'un de bien religieux, bien droit, qui devait aller à Galilée ou bien à Nazareth. Parce que, comme on a vu il y a quelques semaines, à Nazareth, il y avait justement des gens de Judée, des Judéens, qui ont été transplantés, donc des gens de Bethléem ou Jérusalem, qui sont déménagés vers le nord. Alors, pour rendre visite à ses cousins, on ne traverse absolument pas la Samarie. On traverse le Jourdain et on monte par la Pérée, donc on va en territoire non-juif pour arriver finalement, en passant par le Décapole, pour arriver en Galilée. Il faisait tout pour éviter ce petit bout de terre. Mais Jésus, lui, il va tout droit. Et il va tout droit. Et ça montre plusieurs choses qui sont très intéressantes. D'abord, sachant que il n'était pas tout à fait accepté dans sa terre natale. Les gens n'étaient pas hyper contents de l'accepter ou de l'écouter à Nazareth. Donc, quelque part, il est chassé de là. Et en Judée non plus, les chefs religieux ne voulaient pas de lui non plus. C'est presque une préfiguration de ce qui allait se passer après sa mort et sa résurrection, après que la bonne nouvelle est répandue en Judée. Et donc, il y a cette féroce persécution qui s'empare sur l'Église, qui force les gens de quitter cette région pour aller en Samarie. Et puis, jusqu'au rebord de l'Empire romain à l'époque, aller jusqu'à la fin de la terre connue. Jésus, qui est envoyé par contre au brevet d'Israël, il dit beaucoup en ne disant rien et en passant par Samarie. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avec les Samaritains? Alors, ça, c'est une question historique. En fait, si nous nous rappelons de nos études de Ésaïe, nous rappelons qu'il y avait cette menace assyrienne qui venait du nord à cause de l'impiété israélienne, qui venait et ils ont déporté donc, tous les Israélites. Les Assyriens étaient un peuple terrible, vraiment terrible. Quand ils déportaient un peuple, ils étaient cruels à faire des vrais crimes de guerre, on pourrait dire aujourd'hui, jusqu'à faire marcher les prisonniers nus, avec des hameçons dans le nez, enfin, des choses terribles. Et après qu'ils ont déporté des gens, ils ont fait en sorte que le peuple ne pouvait plus se rassembler et regagner le terre et ne surtout pas révolter contre la Syrie. Donc, ils ont dispersé partout le peuple et ils ont mélangé tout le monde partout. Dans le territoire israélien, alors, ils ont mis des gens d'autres régions. Il y avait un grand problème, nous lisons, dans le livre des rois et aussi des chroniques, c'est que, en fait, à cause de l'immoralité de ce peuple, l'idolâtrie de ce peuple dans la terre qui appartient à Dieu et à Dieu seul, je ne supportais pas ça, alors il envoyait des lions et les gens étaient effectivement interpellés par ce signe des bêtes sauvages qui viennent manger leurs petits et même les grands. Alors, ils ont bien sûr fait des réclamations auprès des rois, des autorités assyriennes. Pourquoi tu nous as mis dans un tel pays où nous sommes le proie des bêtes sauvages? Et donc, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé des lévites pour voir pourquoi il y a ça dans ce pays et pas dans les autres. Et donc, en recherchant ce que dit la loi de Dieu, ils ont réalisé que c'est à Dieu qu'appartient la terre. et il faut respecter Dieu. Finalement, ce qui arrive, c'est que ce peuple n'était pas vraiment convaincu. Il y en avait certains, évidemment. Il y avait d'autres qui faisaient les rites israélites, mais gardaient tous leurs idoles. Et ça a fait que les Samaritains ont devenu pas seulement un peuple, un métissage de peuples, enfin d'ethniques, mais religieux. Et il y avait d'autres choses qui sont passées en Samarie. Évidemment, ils n'appréciaient pas l'attitude hautaine du peuple juif en Judée, alors que eux aussi, ils ont été instruits dans la loi de Moïse. Alors, ils ont rejeté tout sauf les premières 5 livres, donc la Torah, et c'est tout. Donc, ils gardaient ça. Mais ils ont commencé à faire des petits mélanges aussi. Par exemple, Mont Garazim. Et c'est important parce que ça va nous aider à comprendre le reste de notre histoire. Sur le Mont Garazim, leur capitale, ils ont changé des choses comme ils se bornaient aux 5 premiers chapitres de, enfin, 5 livres de la Bible. Alors, tout ce qui appartient à Jérusalem, donc Jérusalem choisi par l'Éternel, donc les histoires de David, Salomon, tout ça est balayé évidemment, parce que ce n'est pas dans la Torah. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Il y avait Abraham qui a vécu dans ce pays-là. Et donc, ils ont commencé à mettre tout sur le mont Garazim, par exemple. Abraham qui sacrifie donc son fils, ça se passait, devinez où? Mont Garazim, et pas Mont Moria, à Jérusalem. Bien, et ils ont dit que c'est la montagne de Dieu, la plus haute des montagnes. On a vu les montagnes de Samarie, ils ne sont pas très larges, ils sont plutôt des collines, pas plus larges qu'à Montmartre. Mais là, ils ont dit que c'était le plus grand, plus magnifique, que même quand il y avait le déluge, ça ne touchait pas le sommet de ces montagnes. Ils ont dit plein de choses, que c'est là où il fallait que, où Dieu a mis son nom, et ça continuait, que jusqu'à ce qu'ils étaient convaincus, ils ont même construit leur propre temple sur le mont Garazim, et ce temple était finalement détruit par les Romains à cause des rébellions. Devinez qui a porté main pour détruire justement ce temple? Évidemment, les Juifs de Judée. Alors, il y avait effectivement de l'animosité entre ces deux peuples. Ça s'explique pourquoi on lit verset 4. Or, il fallait qu'ils traversent la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Il paraît que ça existe toujours, c'est en territoire palestinien. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, donc ça fait midi à peu près. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Alors, Jésus, il est fatigué du voyage. Donc, on a vu sur les cartes comment il a dû monter, certainement dans un pays aride. Et ce n'est pas facile, il y a beaucoup de collines. Et nous le voyons fatigué. C'est important parce que ce n'est pas du tout un hasard que Jean nous donne ce détail. Il est fatigué parce que ça relève l'humanité de Christ. Parce que le but de Jean est de nous amener à croire en lui et pour avoir la vie éternelle. Et pour cela, il faut croire qu'il est à la fois homme et à la fois Dieu. Parce que à l'époque, il y avait justement une hérésie qui circulait, que Jésus n'était pas réellement homme, mais il semblait être un homme. Il avait des caractéristiques, un peu comme un fantôme, mais il n'est pas réellement homme. Or, il fallait absolument qu'il soit parfaitement un homme. Pourquoi? Pour faire son service sur la croix. Paul, il nous a décrit en Romains chapitre 5 que comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam, par un seul homme est venue la vie, Jésus-Christ. Comme il y a toujours une symétrie parfaite dans la parole de Dieu, comme par un homme vient la mort, le péché, toute la destruction, il faut que ça soit réparé, restauré par un homme, l'homme Dieu, l'homme parfait, le seul homme qui peut. Et donc, nous voyons une petite preuve de son humanité. Il était fatigué, comme nous tous. Il n'avait pas une physique surnaturelle, il n'était pas un Samson. Mais il se fatiguait. Il s'épuisait. Et donc, il est assis à midi quand cette femme. Notez bien qu'il n'y a qu'une seule femme. Il n'y a personne d'autre pour puiser de l'eau. Alors, pourquoi? Parce que normalement, les femmes viennent le matin ou le soir pour puiser de l'eau. Parce que ça pèse, tout simplement. Donc, on ne vient pas pour puiser de l'eau comme ça, parce que surtout dans la chaleur, ça tape le soleil. Et pour éviter tout ça, ce n'est pas le moment. Alors, pourquoi elle est là? On n'a pas encore la réponse, pas encore en verset 7 au moins. Mais nous voyons que Jésus la voit, et du coup, nous réalisons que si Jésus a traversé la Samarie, c'est parce que Dieu estimait qu'il y a une femme là, digne de la lumière, digne pas dans le sens qu'elle méritait, mais Dieu voulait sauver cette femme, et donc il a créé l'ambiance parfaite où elle se trouve à un endroit et à une heure où elle ne devait pas y être. Et là, seule avec Christ. Normalement, un rabbin ou un homme religieux n'adresse même pas la parole à une femme juive. Mais quand on parle maintenant à son ennemi, là, ça choque. Mais il ose et dit une chose si normale. Donne-moi à boire. Il avait probablement soif, tout simplement. Demande une chose si simple, si normale, d'une bonne étude, justement, à comment parler aux gens. Pourquoi pas commencer avec ce qui est de plus normal? Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. On s'étonne peut-être à penser pourquoi les disciples qui méprisaient tellement les Samaritains, ils se permettaient d'acheter leur nourriture. Parce que les Samaritains qui gardaient les premières 5 livres, donc faisaient tout cachère. Paradoxalement, on peut se détester. Et on peut aussi acheter la nourriture les uns sur les autres. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Là, on comprend, on entend même le mépris dans sa voix aussi. Ben, c'est choquant. D'abord, elle ne devait pas être là, il faisait chaud, elle devait faire une lourde tâche. Si elle était là, elle n'était pas contente d'y être. Et puis, maintenant, elle se fait embêter par ce monsieur qui est là. Elle entend son accent, elle sait très bien d'où il est. Les Juifs, en effet, n'ont pas des relations avec les Samaritains. Ah, mais Jésus n'était pas là pour embêter la femme, mais pour la sauver. Et donc, il poursuit. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors, c'est assez intéressant, l'eau vive. Une eau qui se différencie de l'eau qui est dans ce puits. Peut-être il n'y avait pas de très bon goût. Peut-être on parle d'une eau vive dans une rivière, quelque chose de mieux. Mais c'est quand même curieux puisque cet homme lui demande à boire. Mais nous qui avons le recul et l'Esprit Saint en nous, nous comprenons très bien ce qu'il voulait dire. Il ne parlait pas de l'eau simplement, il parlait des choses spirituelles. En fait, cette conversation n'est pas très loin de celle que nous avons vue la semaine dernière avec Nicodème, mais c'est adapté à une autre personne d'un autre milieu qui avait toute notre éducation et d'autres besoins. Comme Nicodème devait savoir pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne s'agissait pas d'être un bon pharisien, mais il fallait qu'il naisse de nouveau. Cette dame aussi, il fallait qu'elle sache que les eaux ou ses sources pour sa vie ne suffisaient plus. Il fallait qu'elle reçoive de ce qui est pur, de ce qui vient d'en haut, de l'eau vivante, ce qu'elle n'avait pas. Mais, bien sûr, elle n'a pas compris, peut-être dans son intelligence, elle lui a donné le crédit de ne pas avoir très bien compris. Il a parlé de l'eau vivante qu'elle ne voit pas, donc peut-être qu'il connaît quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle dit, maintenant Seigneur, avec plus de respect, parce qu'il faut dire, s'il était empêché jusqu'à midi pour aller chercher de l'eau, c'était pour une bonne raison. Et peut-être il a quelque chose qui pourrait lui aider, justement. Seigneur, donc, avec intérêt. Seigneur, dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Bon, elle est toujours méprisante, mais intéressée quand même. Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que les fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus, cette fois-ci, il ne répond pas à sa moquerie. Ce n'est pas qu'il ne répond pas à sa question, mais il est là pour sauver. Et si elle lui taquine, il écarte ces choses pour continuer. Certainement, aussi, peut-être, elle a haussé le ton. Aussi, peut-être, sa voix aussi. Parce qu'il parle des choses qu'elle ne comprenait pas. Elle n'était pas en bonne humeur. Et c'est un bon exemple aussi pour nous. Parce que parfois, nous nous trouvons dans le scénario suivant. On veut parler de Dieu. Donc, on lance un petit truc de genre de Jésus, j'ai soif. Et puis, quelqu'un dit une chose, et donc on lance la deuxième chose pour enchaîner. Et puis, ils ne comprennent pas, ils n'écoutent pas, et puis c'est presque comme ils crient. En retour, et puis on change de sujet. Ah, ils n'étaient pas intéressés. Or, peut-être la personne était intéressée. Peut-être ce n'était pas nous qui nous avons trompés, qui nous sommes trompés. Jésus nous donne une très bon exemple. Il écarte la moquerie. Il voit, il va droit au but. Il s'explique encore pour qu'elle comprenne. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est normal. Ça entre dans le corps et puis c'est jeté et tout. C'est naturel. Vous aurez encore soif parce que c'est physique. Autrement dit, toute votre vie se base sur ce qui est physique. Et tous les appétits et tous les goûts physiques ne désaltrent jamais votre soif. L'eau que vous buvez ne suffira pas plus que ça. Vous aurez toujours soif pour plus. Mais l'eau que j'aimerais vous donner est différente en qualité. Parce que ça devient une source qui jaillira. C'est continuel. Et ça continue jusque dans la vie éternelle. C'est donc surnaturel. C'est dans le même registre, enfin avec Nicodème, Jésus qui parlait des choses du royaume, des choses grandes et peut-être grandioses. Là, pour elle, il utilise des choses qu'elle connaît très bien. Des puits ne jaillissent pas comme ça, pas comme il décrit. Il parlait donc d'autres choses, et surtout en ajoutant la qualificative « jusque dans la vie éternelle ». Il parle de l'éternité. Il faut maintenant qu'elle quitte le puits spirituel où elle boit pour connaître cette eau que seulement Jésus peut lui donner. Donc une invitation est lancée. Elle ne comprend pas, mais elle est vraiment intéressée. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle pense à sa situation. Donc, peut-être, elle avait l'habitude de venir à midi pour puiser de l'eau. Peut-être ce n'était pas un accident ce jour-là. Peut-être c'était chaque jour. Et si c'était chaque jour, il y avait bien raison qu'elle ne voulait pas voir les autres femmes, les autres personnes de la ville pour puiser l'eau à cette heure-ci. Alors, Jésus dit, « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'en ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Waouh! Alors là, tout est dévoilé. Jésus exerce en ce moment une parole de connaissance. La parole de connaissance est un don du Saint-Esprit, une manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 12 et 14. C'est quand, par la puissance du Saint-Esprit, quelqu'un connaît quelque chose ou il dit quelque chose, peut-être il ne connaît pas Jésus, avait une relation quand même supérieure à la nôtre. Donc il est allé plus loin, bien sûr. Mais qui peut même dire une chose qui dévoile parfaitement le cœur d'un autre et qui dévoile même les secrets d'un autre. Dans ce cas, Jésus, il savait ce qui était derrière. Dans un autre cas, il se peut très bien que quelqu'un dise une chose par le Saint-Esprit, même en ne sachant pas, et puis, ou en voulant dire quelque chose d'autre, et puis, cette parole va jusqu'au cœur de cette personne et dévoile le péché caché lutte ou dévoile en fait le cœur de cette personne. La personne n'est pour rien, c'est Dieu qui l'a fait. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est bien de souligner ces dons quand ils apparaissent aussi brillamment dans l'Écriture pour nous donner une bonne idée de comment ça peut se passer. Par exemple, une parole de connaissance qui a été utilisée dans ma vie, en fait, ça a été donné par quelqu'un en regardant une vidéo cassette, donc, par une personne, en fait, qui est décédée, mais qui prêchait, en fait, c'était une prédication, et c'était à un moment où le Seigneur était en train de me montrer que sa volonté pour ma vie n'était pas la musique. Or, je voulais tellement, et je luttais contre le Seigneur, alors j'ai regardé, en fait, une cassette vidéo d'un chanteur qui s'appelle Keith Green, et il disait un truc, bon, il est mort, hein, il est avec le Seigneur, mais c'était une parole qui dévoilait mon cœur. Keith Green, il était pour rien, hein. C'était le Saint-Esprit qui l'a fait, et c'était exactement pour moi, là où j'étais, mon cœur était dévoilé. Le Saint-Esprit a utilisé la prédication pour me parler, c'était puissant. Alors là, encore plus. Et donc, ça nous amène à une autre chose qui est très importante pour nous aider à partager la bonne nouvelle avec nos amis. Parce que la bonne nouvelle est vraiment bonne. Mais elle n'est pas bonne si on ne comprend pas qu'elle est bonne. Si on ne comprend pas le message, en fait, la bonne nouvelle est incompréhensible. Quelqu'un est mort pour moi. Pourquoi? Pourquoi donc? Je suis bon. Je ne suis pas pire que les autres. Je n'ai pas fait des tas de choses comme d'autres personnes. Et donc, nous voyons que tout est relatif avec un tel point de vue. Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit annoncé afin que la bonne nouvelle soit bonne à celui qui l'écoute. Et cette quelque chose, c'est la loi de Dieu. Et donc, en 1 Timothée, chapitre 1, verset 8, nous lisons ceci. « Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste. Donc, ce n'est pas à moi de vivre les 10 commandements, mais le mieux que je puisse faire. Et puis, si je le rate, de construire un autel et de sacrifier une bête sur l'autel, ce n'est pas à moi de suivre la loi de cette manière. Parce que je suis juste, justifié par Christ. Donc la loi est dans mon cœur. Je l'accomplis naturellement. Non, la loi est donc pour les méchants et pour les indisciplinés, pour les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanes, les parricides, les matricides, les meurtriers, les débauchés. Donc cette femme, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures. Et tout ce qui, en outre, est à l'opposé de la sainte doctrine. La loi est pour les autres personnes qui ne sont pas dans le royaume. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui nous décrit ce que c'est le péché. Jésus, il en fait bon usage. Il parle de son problème de fidélité, apparemment. Normalement, un rabbin, à cette époque, refusait de marier encore une personne qui a déjà eu 3 époux. Là, elle en a eu 5. Et notez bien qu'elle est là au puits quand il n'y a pas d'autre femme. Alors, si elle en a eu 5, c'est probable que cette femme trompait ses autres maris, l'un après l'autre, après l'autre, jusqu'à ce qu'elle se trouve là maintenant avec celui-là. Il n'est même pas son mari. Ce n'était pas une femme qui avait une bonne conduite de vie. Et c'est pour ça que Jésus, justement, il dévoile son cœur par la puissance du Saint-Esprit, mais c'est la loi qui s'applique, telle que tu ne commettras pas d'adultère. Elle est donc sous le poids de la loi. Et elle le sait, puisque sa réponse est typique de quelqu'un qui est sous la conviction de la loi. Elle change de sujet. Elle ne veut plus en parler. Regardons ce qu'elle dit. La femme dit, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Dis donc, il n'a pas parlé de prophétie. « Je vois que tu es prophète. » Elle flatte et puis elle dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Et vous dites, vous, que l'endroit où il fait adorer est à Jérusalem. Alors, elle essaie de s'esquiver. Aujourd'hui, ça serait la question typique. Alors, si ton Dieu est un Dieu d'amour, alors pourquoi il laisse mourir des enfants dans un pays qui n'ont jamais entendu parler de lui? Ou bien, comment ça se peut qu'il y a tellement de catastrophes naturelles s'il y a un Dieu? Notre classique, c'est « je ne peux pas croire en Dieu qui réclame le sang des autres. » Il y avait tellement d'histoires sanglantes dans l'Église. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la conversation. Mais les gens, ils reviennent vers ces questions-là. Parce qu'ils veulent s'esquiver. Ils veulent éviter. Parce que le poids de la loi est sur eux. Que fait la loi? Selon les proverbes, elle convertit l'âme. Que fait la loi aussi? Elle ferme la bouche. Sa bouche est fermée. Elle ne porte plus rien. Maintenant, elle est plus proche que jamais à accepter la bonne nouvelle. Parce qu'elle comprend qu'elle est pécheur et que Dieu le sait. Mais notez bien aussi que Jésus n'a pas non plus s'appuyer là pour mettre plus de condamnation. Ça y est, sa conscience travaille très bien en elle. Il n'a pas essayé de le noyer dans un marais de condamnation non plus. En fait, c'est lui, verset 18 de Jean 3, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de condamner les gens. Ils sont déjà condamnés. C'est à nous de les aimer. Et ne pensez pas pour un moment que Jésus était là pour vraiment mettre la pression et pour écraser cette femme. Même si la loi était appliquée sur sa situation, c'était fait par amour. Car quel est le commandement que Dieu nous a donné? Aimer notre Dieu et aimer les uns les autres. Donc, si on doit, pour partager la bonne nouvelle, appliquer la loi, on n'a aucun droit de le faire si on ne le fait pas en amour. Parce que ce n'est pas à nous de condamner personne ici. On n'est pas Dieu, on n'a pas ce droit-là. Mais on a seulement le devoir d'aimer. C'est un devoir, c'est un commandement. Donc on doit l'aimer. Et par amour, donc on partage la loi pour qu'ils comprennent et qu'ils soient sauvés, pour que la bonne nouvelle soit bonne. Parce que si je comprends que je suis pécheur, et si je comprends que je suis sauvé par une grâce, Étonnant. J'ai entendu parler, quand j'étais assez jeune dans ma foi, que ce n'est pas bien de venir à Christ par la peur, mais de l'aimer tout simplement. Or, franchement, quand j'ai mis vraiment mes premiers pas dans le royaume, j'avais peur de l'enfer, pour être honnête, hein. Je vois pas pourquoi il y a quelque chose de mal en ça. En fait, ça m'a beaucoup aidé à comprendre que j'étais pécheur et que si je mourais à ce moment-là, que j'allais en enfer. Ça m'a aidé énormément à comprendre qu'en Christ, il y avait la grâce et la seule chose qui pouvait me sauver, me parler de ce qui est de bien et de ce qui est agréable, c'est vrai que j'avais déjà de ce qui était bien et agréable dans ma vie. Mais c'était seulement, honnêtement, après que j'ai compris dans ma vie que j'étais un pécheur, que j'avais besoin de lui, que c'est là où je me suis tourné. Et vous alors, au fond de vous-même, comment est-ce que ça s'est passé avec vous? C'est une bonne chose. Donc, mais ce n'est pas une chose non plus à manipuler. Alors, est-ce que Jésus va répondre à cette question bizarre? Parce que, voilà. Pour elle, était enseigné, rappelons-nous, que c'était à Mont Gerizim, donc, c'est sur cette montagne où il y avait le temple que, d'ailleurs, vous avez détruit. Et que c'est sur cette montagne que les eaux de la déluge n'ont pas touché le sommet. Et ça continue. Alors, c'est là où il faut louer Dieu, non? Femme, lui dit Jésus. Crois-moi que l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il répond à sa question. Il dit avec amour, gentiment, tu es trompé, tu t'es trompé. Non, en fait, non, non. Parce que peut-être vous avez rejeté les autres livres que vous n'avez pas compris. Non, le salut vient des Juifs. Et c'est quelque chose qu'on peut même comprendre tout simplement dans le Torah, par exemple. Parce que ça vient de la famille d'Abraham. En fait, le Messie vient de Juda. Juda qui se trouve en Judée, pas en Samarie. Donc c'est Jérusalem et pas Garazim. Ça, c'est pas le plus important. Et le plus important, c'est votre âme. Et c'est pas ces rites, c'est pas ce truc physique. C'est pas ça qui compte. Non, le Père, il cherche des vrais adorateurs. C'est exactement la même chose qu'il a dit sur le sermon sur la montagne, lorsqu'il a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif pour la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est-à-dire que le Père cherche ce qui est réel, véritable. Et cette forme extérieure de la religion est une chose qui va disparaître. Parce que tout ça, en fait, c'était une forme, des images pour le Messie. Le Messie, quand il vient, donc, qui amène ce qui est de véritable, le haut vivant, ce qui est de réel, des vrais adorateurs, qui louent en esprit, car Dieu est esprit. Il n'est pas dans un idole, il n'est pas le temple, ça c'est pas Dieu, ni l'autel, ça c'est pas Dieu. Dieu est esprit. Et faut il faut qu'il soit loué d'esprit. réellement, donc en vérité. Donc il faut connaître ce que Dieu dit dans la Bible parce qu'il faut qu'il soit loué en vérité et en esprit. Donc c'est l'équilibre classique entre ce que nous voyons aujourd'hui, entre ce qui est de trop pentecôtiste où tout est esprit et pas de vérité, et l'autre où tout est conservateur, il y a tout ce qui est vérité et pas d'esprit. Non, 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 non. Le Père cherche l'équilibre, il cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Les deux marchent ensemble. C'est ça ce qu'il veut. Et donc, quelqu'un qui parle comme ça, ça suscite des questions. Notez la progression. Un juif, seigneur, et encore vraiment seigneur, et puis prophète. Maintenant, la femme dit, je sais que le Messie vient. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors, ça c'est une des proclamations les plus claires de Jésus concernant qui il est. Il ne peut pas être plus clair que ça. Oui, je suis le Messie. Et donc, en disant ça, il s'approprie tous les prophéties concernant le Messie à lui. Le fait qu'il soit Dieu, le fait qu'il gouvernera, le fait qu'il enlève le péché du monde, tout. Alors, cette dame, elle a un choix. Soit, elle considère que cet homme est en train de plaisanter, elle va éclater de rire. C'est bien que tu m'as eu. Non, elle ne fait pas ça. Soit, elle pense qu'il est menteur. Ben oui, tu mens. Comment tu oses dire une chose pareille? Non, parce qu'elle est déjà convaincue, elle a eu une parole de connaissance qui a déchiré son cœur. Elle accepte donc. Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? La femme laissa donc sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux gens. On peut très bien imaginer la peur, même la terreur de la crainte de Dieu qui s'empare sur cette femme. Parce que du coup, elle réalise qu'elle est en train de parler au Messie, à Dieu incarné. Notez bien ce qui se passe après. Elle alla parler aux gens, en fait aux hommes, plus spécifiquement. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et ils, donc les hommes, sortaient de la ville et vinrent vers lui. Et j'insiste là-dessus parce que, c'est dans le texte original, mais pas seulement ça, c'est parce que, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire aux femmes? Ah oui, je viens de rencontrer le Messie, rappelez de moi. Moi qui vivais une mauvaise vie, était détestée par les femmes. Mais les hommes viennent à sa parole. Quel était son témoignage? Voici quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait. Alors, il y avait des hommes qui avaient un certain intérêt à savoir exactement ce que Jésus savait à ce moment-là. Ce qu'elle venait de dire, voici un homme qui m'a montré tout ce que j'ai fait. Ah bon? Tout? Eh ben oui. Et donc, ils sortent maintenant pour voir justement de quoi elle parle, de qui elle parle et qu'est-ce qu'il sait, ce monsieur. C'est étonnant les moyens de Dieu. Et l'histoire continue. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange. Tu t'es fatigué, rappelle-toi, il y a 2-3 minutes. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ma nourriture, Jésus leur dit, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Notez que Jésus n'a pas envoyé ses disciples pour chercher de la nourriture. On ne sait pas à qui était l'idée. Peut-être il n'a rien dit et peut-être c'était leur idée. Alors il a dit, ok, allez-y. Peut-être il était aussi en train de leur montrer que celui qui met Dieu en première place se trouve toujours dans la provision parfaite de Dieu. Dieu pourvoit pour ceux qui l'honorent. Et même si, mathématiquement parlant, ça ne colle pas, spirituellement, réellement, ça tient toujours. Celui qui met Dieu en priorité, il se trouve toujours avec ses besoins satisfaits. Dieu pourvoit parfaitement pour chaque personne. Comment est-ce que ça va terminer? Jésus va demeurer là 2-3 jours. Peut-être les disciples reviennent avec quelques falafels, mais qu'importe, quand Jésus va terminer son travail, ils vont rester quelques jours là-bas. Évidemment, ils vont manger. On dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est ça ce qui est le plus important. Il avait bien compris où sont les bonnes priorités dans la vie. Et c'était ça aussi qu'il enseignait à ses disciples à ce moment-là. Ça nous montre une autre chose, c'est que Dieu est toujours en train de travailler. À chaque moment, déjà, c'est vrai, c'est vraiment une bonne exhortation à nous tous à ne pas perdre l'espoir, mais de continuer. Mais deuxièmement, c'est que Dieu est toujours en train de travailler. Il ne cesse jamais de travailler. Et souvent, je sais dans ma vie, la différence entre être utilisé par lui et être mis à côté, c'est souvent simplement si je suis disponible ou pas. Quand tu es en train de travailler, il travaille tout le temps. Mais est-ce que je me mets à sa disposition? Est-ce que je suis à son écoute? Et c'est là où souvent, où est-ce que je suis en train de chercher des falafels quelque part? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux. Regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. C'était même dit que peut-être ils regardaient de loin et maintenant ils voient tous les hommes qui commencent à marcher vers eux. Parce qu'on peut très bien imaginer que ça n'a pas pris trop longtemps pour ces hommes d'être piqués de curiosité, de venir savoir plus. Il dit déjà, le moissonneur reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'a coûté aucun travail, d'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. C'est aussi la même chose que Paul a dit, ce qu'il a dit, il y a un qui sème, il y a un autre qui arrose, il y a un autre qui récolte. C'est aussi une bonne consolation aussi pour nous qui partagent peut-être avec un ami et la personne ne répond pas, il n'y a aucun effet. Pourtant, vous avez bien dit tout ce qu'il fallait. Alors peut-être c'était à vous de semer. Ou peut-être c'était à vous d'arroser. Peut-être un autre récoltera. Et donc, pour ceux qui récoltent, qui ne soit pas trop fier non plus parce qu'il se peut qu'il y avait beaucoup de gens derrière qui ont fait énormément de travail. Chacun son tour, chacun sa place. Nous travaillons pour le même maître, la même moisson. Il nous demande seulement d'être fidèle. Et ça, c'est pourquoi il dit aussi de prier, père la moisson. Les ouvriers, travailler dans la moisson, ça c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'ouvriers. C'est ça ce qui manque cruellement. Alors, plusieurs Samaritaines de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritaines vinrent à lui, ils le prièrent et restèrent auprès d'eux. Ils restèrent là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » C'est ce qu'il faut. Il faut que les gens soient amenés dans une relation personnelle avec Christ. C'est ce qui est le plus important. Notre témoignage personnel, ça a beaucoup d'importance. Ce que nous disons, encore plus, nos prières, oui. Mais après tout ça, si seulement ils nous trouvent gentils, quelque part il y a un échec. S'ils n'ont pas eu aucun contact avec Christ, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est ça le but aussi. C'est pourquoi c'est toujours bien. Quand il y a quelqu'un, même s'il n'est pas croyant, n'est pas un chrétien, dire oui, je prie pour vous ou de suggérer, bah peut-être c'est un bon moment de prier. Entrez en contact avec votre Créateur, celui qui vous a créé, qui vous aime. C'est le moment. C'est ça le but de toute façon. Alors après ces 2 jours, donc 2 jours avec ces Samaritains, Jésus partait de là pour se rendre en Galilée, car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Donc, tout simplement, il évitait Nazareth. Donc, il n'était pas de Samarie, ni de Galilée, mais de Nazareth. Donc, il n'y allait pas. Lorsqu'il arrivait en Galilée, les Galiléens l'accueillèrent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Et donc je crois que un peu tard, on va terminer là ce soir.